20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est avec le pianiste Tanguy de Villancourt que nous passerons un petit moment ce soir. Tanguy de Villancourt qui a choisi de célébrer Beethoven à travers le genre intime et si profond de la bagatelle, un superbe album qui vient de paraître chez Mirare. Avant cela, notre petit panorama de l'actualité musicale et on commence avec notre point quotidien sur les annulations de concerts. Annulations qui ne concernent pas que la France et l'Italie, puisque de nombreuses institutions à l'étranger ont décidé également de fermer leurs portes. C'est le cas notamment de toutes les grandes scènes berlinoises qui ont annulé l'ensemble des événements culturels et cela jusqu'au 19 avril. Les opéras de Munich et de Vienne suspendent également leur activité, tout comme l'Opéra National de Grèce, dont seule la petite scène alternative reste ouverte. Quelques annulations commencent à ébranler la vie musicale américaine. C'est ainsi que l'Orchestre symphonique de San Francisco ne donnera plus de concerts jusqu'au 17 mars. Une liste loin d'être exhaustive et qui pourrait malheureusement s'allonger encore. Quant à l'Opéra de Paris, un communiqué vient de nous informer la décision d'annuler toutes les représentations des productions suivantes. Manon, prévu jusqu'au 10 avril à l'Opéra Bastille. Le ballet de Georges Balanchine, prévu jusqu'au 1er avril à Bastille. Le spectacle de l'école de danse à Garnier, ainsi que Don Giovanni, qui était prévu du 21 mars au 24 avril, également au Palais Garnier. Les spectateurs ayant des places pour ces spectacles seront remboursés. Sachant que les représentations prévues à l'amphithéâtre et au studio de l'Opéra Bastille sont maintenues, de même que les visites des espaces publics du Palais Garnier. L'Opéra National de Paris espère, en tout cas c'est ce qu'indique ce communiqué, avoir la possibilité de présenter au public les nouvelles productions actuellement en répétition, à savoir L'Or du Rhin, La Valkyrie et des spectacles de ballet d'Alan Lucian Oyen et de Meyerling. Dans un registre plus positif, l'Opéra de Limoges a trouvé son nouveau chef principal et directeur musical, le chef d'orchestre bulgare Pavel Balef, actuel directeur musical de la Philharmonie de Baden-Baden. Il rejoindra l'Opéra de Limoges à compter de la saison 2022-2023. Quant à Michael Schoenwandt, il vient d'être nommé à la tête de l'Orchestre français des jeunes. Il succédera ainsi à Fabien Gabel dès 2021. Michael Schoenwandt, qui est actuellement et depuis 5 ans le chef principal de l'Opéra de Montpellier et qui sera présent dans la fosse de Montpellier dès dimanche et jusqu'au 22 mars pour diriger Falstaff de Verdi dans une nouvelle production très attendue, mise en scène par David Herman. David Herman, metteur en scène franco-allemand qui commence à s'imposer sur de nombreuses scènes internationales. Dans la distribution, Bruno Tadia en Falstaff, Gesim Mishketa dans le rôle de Ford, Alastair Kent en Fenton, Catherine Brodwick dans le rôle d'Alice Ford. Les représentations à l'Opéra de Montpellier sont bien maintenues, dans la limite bien entendu des 1000 spectateurs.
Quivi ripini al suon, ma la sua cura tende sempre ad unire chi lo disona.
Anzi rinnova, come fa l'allora
C'est Rolando Villazón que l'on écoutait ici dans un air de Fenton, extrait de Falstaff de Verdi, accompagné par l'orchestre du théâtre de Turin, dirigé par Gianandrea Nozeda et avec la participation de Moïka Erdmann.
L'or maison sur Radio Classique.
C'est donc à travers la bagatelle que le pianiste Tanguy de Villancourt a choisi de célébrer Beethoven au disque, un album qui vient juste de paraître chez Mirare. La bagatelle, un genre que Beethoven a cultivé tout au long de sa vie créatrice, y révélant toute une palette d'expressions, d'émotions et une grande diversité stylistique. Tanguy de Villancourt est à cette occasion notre invité ce soir et nous éclaire sur ces pages si intimes, si touchantes de Beethoven qu'il sert avec tant d'inspiration.
Alors, ça fait longtemps que je joue ces bagatelles et que je les aime beaucoup, que je les affectionne énormément. En effet, ce sont des pièces très courtes. On n'a pas l'habitude avec Beethoven, qui est plutôt le... Voilà, on salue souvent chez Beethoven la grande architecture, l'art du développement. Et là, c'est tout l'inverse. Il revient vraiment à l'essentiel. Et c'est ça que j'aime dans ces bagatelles, c'est qu'on a tous les aspects de son écriture, à la fois le côté véhément, mais en même temps la grande tendresse. Il y a beaucoup de charme aussi dans ces bagatelles. Donc c'est à la fois un vrai portrait de Beethoven et en même temps une autre manière de redécouvrir le compositeur, un nouvel aspect. Et puis je trouvais que pour l'année Beethoven, c'était sympathique de sortir un peu des sentiers battus, puisque voilà, il y a des sonates qu'on connaît par cœur, et voilà, c'est une manière d'avoir un autre regard.
Alors ces pièces, ces bagatelles, Beethoven les appelait ces petites choses, mais elles révèlent en fait, et on va l'évoquer avec vous ce soir, de grandes et belles choses. Il les considérait avec autant de sérieux que ses sonates, et est-ce que quand on joue ces petites pièces, on les joue avec autant de sérieux que des grandes pièces?
Alors, chez Beethoven, il y a du grand sérieux, il y a même du pathos, et certaines bagatelles portent ce pathos, mais il y a aussi beaucoup d'humour chez Beethoven. On n'y pense pas tout le temps, mais il est issu de Haydn, et l'humour de Haydn est très présent dans certaines pièces de Beethoven, et dans ces bagatelles, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour aussi.
Mais c'était sérieux au sens exigeant, au sens qualitatif.
Tout à fait. C'est vrai qu'on les voit parfois comme des pièces uniquement pédagogiques, et c'est pas le cas, c'est des pièces relativement difficiles, certaines sont même techniquement redoutables, mais elles ont... en effet, je pense que Beethoven les considéré avec beaucoup de sérieux. Et plus on avance dans la chronologie de ces bagatelles, plus elles portent une dimension très beethovenienne au sens humaniste, puisqu'on a l'opus 126, qui sont les dernières pièces pour piano de Beethoven, ces 6 bagatelles, qui sont vraiment des purs chefs-d'œuvre. Et lui-même, Beethoven, d'ailleurs, a souligné qu'il considérait que c'était les meilleures qu'il ait écrites dans ce genre-là. Première bagatelle de Beethoven, celle qui constitue l'opus 33, écrite au tournant du 19e siècle, qui figure tout naturellement au programme de votre album, qui ouvre même cet album de bagatelle, Tanguy de Villancourt. Ces pages sont encore empreintes d'un certain classicisme. Elles sont heureuses, elles sont gracieuses, elles sont lumineuses, elles sont pleines de tendresse. Et c'est un Beethoven jeune, un Beethoven heureux, un Beethoven insouciant. Tout à fait, c'est vraiment des pièces de jeunesse. Alors, il les a terminées au tournant du 19e siècle, mais on pense qu'elles sont issues d'esquisses vraiment qu'il a écrites relativement jeunes. Elles sont en effet complètement empreinte de l'esprit de Mozart et de Haydn, très classique, mais déjà quand même, il y en a quelques-unes où on sent vraiment, vraiment la touche beethovenienne. Je pense notamment à la dernière de ce cycle, qui est un presto fulgurant, qui est alors vraiment, on ne peut plus beethovenien. Mais c'est vrai qu'elles sont toutes dans un mode majeur, donc plutôt lumineuses, alors qu'on a parfois l'image d'un Beethoven, do mineur, quelque chose de très sérieux. Là, elles sont vraiment très tendres, pleines de charme, et des petits épisodes mineurs parfois viennent s'insérer au milieu des bagatelles, et là on pense parfois presque déjà à Schubert dans certains passages.
Oui, c'est vrai, on pense à ces miniatures que développeront plus tard Schubert, Mendelssohn, Schumann. On est dans les romans sans parole déjà.
Complètement, même parfois jusqu'au Klavierstück de Brahms, je trouve. Et en tout cas, c'est certain, les moments musicaux de Schubert, voilà, il y a beaucoup de choses.
Alors ces pièces, ces bagatelles, mises à part quelques-unes de l'opus 33, sont assez simples, enfin paraissent en tout cas assez simples. Quelles difficultés pose-t-elle à l'interprète du coup ? Alors, ce n'est pas facile de jouer à la simplicité.
Oui, c'est, en fait, pour tout vous dire, j'ai trouvé l'opus 33 les plus difficiles en fait à jouer. Puisqu'après, dans les opus plus tardifs, il y a déjà un romantisme qui est très naissant, très présent. Et donc, on est plus dans un vrai piano romantique. Là, les opus 33 sont plus délicates, puisque du coup, on va chercher davantage les articulations, la subtilité des nuances, des couleurs. Et il faut arriver à en faire quelque chose. Mais bon, elles sont déjà d'elles-mêmes absolument superbes. Mais c'est vrai que c'était pour moi les plus complexes à appréhender, puisqu'elles sont très très simples en effet.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Tanguy de Villancourt, le style de Beethoven évolue tout au long de ses bagatelles, entre l'opus 33 et l'opus 126, dont on écoutera également un extrait tout à l'heure. Il y a 32 bagatelles, je ne sais pas si c'est le total des bagatelles de Beethoven, il y a aussi 32 sonates.
C'est très rire.
C'est sans doute un hasard, mais est-ce qu'à travers ces 32 bagatelles, Beethoven est allé aussi loin dans la diversité, dans la créativité que dans ces 32 sonates?
Alors c'est vrai que c'était rigolo, parce qu'on a additionnant, puisqu'en fait on a trois cycles édités du vivant de Beethoven, de bagatelles, mais il y a également des bagatelles qui n'ont pas de numéro d'opus, et en les additionnant tous, je me dis, il y en a quand même 32, c'est assez rigolo, je pense que c'est un pur hasard. Est-ce qu'elles sont aussi emblématiques que les sonates? Bon, je pense pas qu'on puisse le dire.
Représentatives, en tout cas, diverses, je parlais.
Alors oui, en tout cas, c'est sûr qu'on peut là aussi... Oui, tout à fait, je pense qu'on peut vraiment voir l'évolution de l'écriture de Beethoven, ça c'est absolument évident, notamment dans l'opus 119, où il y a les premières qui sont là aussi plutôt une écriture de sa période plus jeune, et les dernières qui là basculent déjà dans la modernité. Et à les dernières de l'opus 119, on est presque dans les derniers quatuors, donc c'est assez fascinant de voir l'évolution. Là, pour le coup, ces bagatelles sont très représentatives de cette évolution.
Alors, il y a trois cycles, l'opus 33, l'opus 119 et l'opus 126, et puis il y a toutes ces bagatelles, en tout cas un certain nombre de bagatelles, qui ne portent pas de numéro d'opus. Elles ont été cataloguées avec les fameux WOO, ce qui nous permet de les retrouver dans l'œuvre de Beethoven. Pourquoi ne leur a-t-il pas donné de numéro d'opus? Est-ce qu'il le sous-estimé?
Alors, en général, ça signifie simplement qu'elles n'ont pas été éditées de son vivant. En tout cas, il n'a pas réussi à les inclure dans des cycles. Je sais que pour certaines, notamment la lettre à Élise, il a essayé d'abord d'en inclure dans un cycle, puis finalement les a retirées. Enfin, c'est un travail complexe. C'est vrai que les cycles ont une belle unité, sont très cohérents d'un bout à l'autre. Et peut-être que voilà, ces autres pièces étaient moins faciles à insérer.
Thank you. Alors, la plus célèbre des bagatelles de Beethoven, c'est la lettre à Élise, que vous avez tout naturellement enregistrée, Tanguy de Villancourt. C'est vrai que c'est une pièce dont on a eu une image parfois un peu caricaturale. On l'associe aux apprentis pianistes, qui pour certains la massacrent un peu. Alors que quand on l'écoute sous vos doigts, on redécouvre une pièce d'une tendresse, d'un charme, d'une beauté qu'on avait un peu oubliée.
Ah ben, c'est gentil. Bon, voilà, évidemment, il fallait l'inclure puisqu'il s'agit vraiment d'une bagatelle. C'est vrai qu'on l'entend tellement que parfois on peut un peu en être lassé.
Mais vous la réhabilitez, la lettre à Élise.
Oui, ben, je la trouve géniale. C'est-à-dire que quand même, ces deux notes qui tournent mi, ré, mi, ré, mi, il y a un côté hypnotique presque tellement ce thème revient. Et puis pour moi, il y a une grande mélancolie aussi dans cette, dans cette pièce. Elle est superbe.
Ouais, elle est touchante. Alors, on trouve à travers ces bagatelles que vous avez enregistrées, Tanguy de Villancourt, toute l'évolution stylistique de Beethoven au piano. On retrouve également toutes ses humeurs. On parlait tout à l'heure d'humour, on évoquait la tendresse. Il y a de la colère aussi. C'est un véritable journal intime, un kaléidoscope de l'âme beethovenienne, finalement, ces bagatelles.
Complètement.
D'autant qu'il en a écrit tout au long de sa vie.
Tout au long de sa vie. Et puis, les cycles sont très bien construits justement pour qu'il y ait beaucoup de contrastes, que ce soit de tempi, de dynamique, d'écriture pianistique. Il y a une inventivité formidable. Il y a presque, comment dire, toutes les recettes beethovenienne qui parsème ses bagatelles. Donc on retrouve presque tous les éléments de son écriture pianistique. Et il y a beaucoup d'éléments des bagatelles qu'on retrouve dans les sonates après.
Et puis on comprend mieux l'homme sous toutes ses facettes, tous ses traits de caractère. Donc cet album vient de paraître chez Mirare. Vous jouez ici les bagatelles, mais vous jouez aussi ces sonates de Beethoven, Tanguy de Villancourt. Est-ce qu'on a un plaisir très différent? Est-ce que les difficultés aussi sont différentes lorsqu'on joue une bagatelle? Donc des petites pièces très courtes, un univers qu'on doit tout de suite reconstituer en quelques secondes. Alors qu'avec une sonate, on peut installer les choses avec plus de temps, mais les difficultés ne sont pas les mêmes.
Oui, je trouve presque plus difficile les bagatelles dans un sens, puisque c'est vrai que, comme vous dites, les sonates, on a une forme, on a une architecture, on peut plonger dedans et on a le temps vraiment de rentrer dans l'esprit d'un mouvement de sonate. En plus, elles sont tellement admirables. Je veux dire, les 32 sonates de Beethoven, elles sont toutes d'un aboutissement exceptionnel. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être presque plus évident.
Voilà donc ces bagatelles que vous venez d'enregistrer et les sonates dont vous jouerez certaines en cette année Beethoven. Quelles seront les sonates qui résonneront sous vos doigts justement ces prochaines semaines, ces prochains jours?
Alors, beaucoup de nouvelles sonates, parce que j'en ai déjà joué pas mal. Et cette année, j'ai la sonate au clair de lune et la pathétique qui sont nouvelles à mon répertoire. Également la sonate Les Adieux, mais aussi la Hammerklavier que je vais enfin jouer et qui est un sacré challenge puisque c'est évidemment la plus longue et la plus probablement quand même la plus difficile. Donc je suis ravi d'enfin pouvoir la jouer.
Voilà, la Hammerklavier, qui est une sonate emblématique de François-Frédéric Guy, qui a organisé justement une intégrale des sonates de Beethoven à l'auditorium de Radio France, une intégrale collective, puisqu'il a réuni différents pianistes de votre génération, Tanguy de Villancourt. Vous jouerez le 22 mars. Et laquelle sonate? C'est pas la Hammerklavier, hein. Je crois que c'est lui qui la jouera, François-Frédéric
voilà.
Guy.
Je crois que c'est lui qui la garde, il me semble. En tout cas, moi, je jouerai donc la sonate Les Adieux et la sonate La Chasse, ou La Caille. Enfin, elle porte plusieurs noms. Sonate opus 31, numéro 3. Et je suis ravi de partager ce récital avec Rémi Genier et Alexandre Kantorov, le 22 mars.
Un bel compagnie, un beau trio de pianistes français. D'autres rendez-vous à venir, quelques jours plus tard, le 28 mars, un récital à Nîmes, seul cette fois-ci.
Tout à fait. Beethoven également, d'ailleurs.
Voilà, sonate, bagatelle, les deux. Voilà, autant mélanger, c'est bien, aussi, en concert. Un rendez-vous le 25 avril à la scène musicale, en compagnie d'une chanteuse, la soprano Axel Fagno. Accompagner les chanteurs, c'est aussi quelque chose dont vous avez besoin.
J'aime beaucoup. Je trouve qu'on apprend tellement au contact des chanteurs. Pour nous, pianistes, voilà, qui devons chanter au piano, oui. Ce qui est bien difficile. Voilà, j'adore faire évidemment de la mélodie, du lead.
Qu'est-ce que vous chanterez avec Axel Fagno?
Alors, nous aurons un programme allemand avec Wagner, les Wesendonck-Lieder, et puis les Siebenfrühlieder de Berg, ainsi que quatre Lieder de Schönberg.
Et vous insérez quelques transcriptions de Bach de Wagner, parce qu'on se souvient de ce magnifique album de transcription wagnérienne.
Il y aura la mort d'Isolde.
Ah, magnifique. Et puis plein de rendez-vous également au printemps, notamment au mois de mai, dans différents endroits un peu partout en France. Par exemple, le festival Piano Tempo, qui a lieu au Croisic, un très beau festival dédié au piano que dirige Romain David, auquel vous participerez notamment Tanguy de Villancourt. Merci beaucoup d'être passé nous voir et on se quitte avec une nouvelle bagatelle extraite de cet album qui vient de paraître chez Mirare. Merci.
Merci beaucoup.
La cinquième bagatelle de l'opus 126 de Beethoven sous les doigts de Tanguy de Villancourt, un nouvel extrait de ce superbe album sorti chez Mirare.
Le journal du classique sur Radio Classique.
Et je vous propose de refermer ce journal du classique avec une autre nouveauté discographique, une nouvelle version du Stabat Mater de Pergolèse par Christophe Rousset et ses talents lyriques qui nous en avaient déjà offert un enregistrement emblématique chez Decca il y a une douzaine d'années. Alors Christophe Rousset s'est ici associé à la soprano Sandrine Pio et au contre-ténor Christopher Lorway pour cet enregistrement qui sortira vendredi chez Alpha et associé au célèbre chef-d'œuvre de Pergolèse des pages sacré de Nicolas Porpora et de Leonardo Leo. Alors c'est l'envoûtant début de ce Stabat Mater que je vous propose d'écouter ce soir donc dans cette toute nouvelle version de Christophe Rousset.
Thank you.
Début du Stabat Mater de Pergolèse dans la nouvelle version de Christophe Rousset avec ses talents lyriques et avec les deux voix de Sandrine Pio et Christopher Loreille, un enregistrement qui sort cette semaine, vendredi très précisément, chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Robin Rieuvernet pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du violoniste Virgile Boutelli-Staft. Excellente soirée qui se poursuit en musique avec Francis Drezel.